des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Un beau matin, l'ado, étrange animal tout juste sorti de l'enfance, met le nez hors de sa tanière. Et que voit-il ? Un monde inconnu, fait d'injustice, de contraintes, de joie éphémère. Un monde où le leitmotiv semble être « sois responsable ». La responsabilité, encore un mot que l'ado ne connaît pas. Un monde où tout est à apprendre, son fonctionnement politique, économique, quotidien. Un monde qui paraît souvent brutal et invivable. Chaque époque, chaque coin du monde étant confronté à ces problèmes différents. Aujourd'hui en Occident, l'écologie, mais hier la société rigide des années 50 et demain, allez savoir. Mais dans d'autres pays, ne l'oublions pas, la guerre, la violence, l'idéologie religieuse. Et l'ado doit non seulement se coltiner avec tout ça, mais en plus avoir à gérer ses pulsions.
Hier soir. Vous allez voir.
Vas-y.
Bolonadona. 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 Bolonadona.
Qu'est-ce qu'elle vous raconte,
Thomasie? Je dis que je veux une femme. C'est normal, non?
Non, pas vraiment.
Pourquoi vous avez jamais envie de femme, vous, monsieur Moroni?
Si, mais...
Eh ben alors, vous avez pas envie de crier comme ça devant tout le monde, non?
Bon, allez, arrêtez vos singeries, Thomasie, descendez.
L'homme descend du singe. Thomasie est un homme, Thomasie ne descend pas du panneau de basket.
Je vous félicite. Cet excellent sophisme vous vaudra un avertissement. Et si vous êtes aussi bon en mathématiques qu'en philosophie, vous devez savoir que c'est le dernier avant le blâme.
Combien de blâme pour un renvoi?
Vous foutez de moi, Thomasie.
Mais non, mais faut rigoler, monsieur Moroni. Regardez, quoi, tout le monde sourit... Ça vous arrive jamais de rigoler un
c'est
peu
vrai,
il faudrait parce que...
Mais bon, ça suffit.
Ça manque d'animation, quoi.
Ça suffit, descendez tout de suite. Vous passerez dans mon bureau.
Le Père et le Jeune de Cédric Clapiche, le grand film sur l'adolescence des années 90 qui révéla Romain Duris. On entend dans cet extrait l'énergie quasi incontrôlable qui s'empare de Thomasie, incarnée par Romain Duris. Les pulsions sexuelles ont été le sujet de notre première émission sur l'adolescence. Je voudrais ici vous faire agir, docteur Demichel, sur une constatation qui semble évidente et qui pourtant est fondamentale. Les ados sont obligés de faire des choses qu'ils n'ont aucune envie de faire.
Oui, je trouve que votre introduction est tout à fait excellente et le rappel de ce film aussi tout à fait pertinent, je crois. C'est vrai que la période de l'adolescence est très marquée par cet espace des pulsions. Hein. Les pulsions, c'est tout ce qui jaillit à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont le moteur de notre énergie la plus fondamentale. Ça nous habite, ça nous possède, ça nous prend, ça nous mène, ça nous domine, ça nous aide, ça nous encombre, ça fait tout ça à la fois. C'est une espèce d'énergie à l'intérieur de soi-même. C'est en tout cas, en particulier au moment de l'adolescence, la puissance la plus forte à ce moment-là. Et en même temps, comme vous l'avez bien dit, ça organise la vie intérieure et extérieure et ça la désorganise en même temps. C'est-à-dire, ça vient bousculer quelque chose du moi tranquille de l'enfant. Ça irrigue l'âme et le corps, et ça irrigue, on pourrait dire, le corps peut-être d'abord sur le plan chronologique, et puis l'âme ou le psychisme. Et puis ça ouvre, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, des horizons nouveaux, avec une espèce d'énergie qu'on sent à l'intérieur de soi-même et qu'on connaissait pas jusque-là.
On constate que le monde n'est pas fait pour les ados. Il est peut-être fait pour les enfants, il y a ce côté protecteur. Il est fait pour les adultes. Parfois, aujourd'hui, il est fait pour les personnes âgées, mais pour les ados, malheureusement, on a l'impression que tout est en conflit.
En tout cas, pour reprendre le mot que vous aviez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est l'époque où les ados sont en quelque sorte obligés de faire des tas de choses qu'ils n'ont pas du tout envie de faire parce que il y a plein de choses qui les animent. Et puis voilà, quand ils sont dans des pays en voie de développement ou des pays pauvres, il faut qu'ils y travaillent. Voilà, alors qu'ils ont d'autres choses qui les occupent. Dans nos contrées, il faut plutôt qu'ils aillent à l'école, au lycée, au collège d'abord, au lycée, et puis ensuite qu'ils fassent des études. Et ça, ça les enchante pas. Il faut qu'ils écoutent les paroles des parents qui leur paraissent souvent d'un seul coup tout à fait étranges, incompréhensibles et n'avoir absolument aucun sens autre qu'une contrainte qu'ils ne saisissent pas. Alors, ils s'en échappent et ils fréquentent beaucoup d'autres espaces. Hein. C'est le moment où les adolescents sont dans des lieux publics, ils vont dans les parcs, ils vont dans les centres commerciaux, ils vont au cinéma et surtout, ils tâchent essentiellement, d'abord et avant tout, d'échapper à la présence contraignante, ou en tout cas vécue comme telle, des parents. On sait qu'en général, un adolescent tâche de se débrouiller pour passer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, parfois 3 heures et demie en dehors de la présence de ses parents, comme si c'était quelque chose qui est tout à fait important.
On sent une espèce d'étourdissement, mais justement, oui. Est-ce que c'est pas là le revers de la médaille, c'est-à-dire que l'adulte n'a pas de recul par rapport à ce qu'il vit ? Il est dans l'instant présent également ?
Je ne sais pas si tous les adultes sont dans cette tyrannie du quotidien. C'est vrai qu'il y a une tyrannie de l'instant, hein, de l'immédiat, de ce qu'il faut faire, de ce qu'on doit faire, c'est vrai. Et que les temps de recul par rapport à ce que l'on vit ne sont pas si nombreux que ça dans l'existence. L'adolescent, lui, il a quand même une perspective. On va y revenir, je pense, un petit peu plus tard. Mais surtout, il a quelque chose qui l'anime. C'est-à-dire ses fonctions physiques et psychiques sont à leur apogée. Il a du goût pour tout. Il a de l'appétit pour tout, physiquement, bien évidemment, parce que il va grandir. Hein. En général, vous savez, un enfant, ça prend 5 cm par an. De temps en temps, un adolescent, ça va en prendre 10, 12, parfois 15 en une année. Donc, ça mange. Mais ça mange aussi tout le reste. Hein. C'est-à-dire tout ce qui l'intéresse. En général, ça dort profondément, ça dort jusqu'à midi ou à 13h le dimanche matin alors que personne ne comprend. C'est sensible à tout, c'est sensible à la musique, c'est sensible à la vitesse, c'est sensible à la puissance. Les adolescents, en général, c'est réactif, ça pense vite, d'un seul coup... Les parents se disent, tiens, mais je pensais que c'était un enfant, puis voilà qui me dit une remarque pertinente. Tiens, bah oui, là, on a vu telle personne, on a vu la tante machin, on a vu l'oncle bidule, et voilà l'adolescent, tac, qui fait une petite remarque extrêmement juste, extrêmement pertinente, éventuellement critique, mais où les parents se disent, tiens, bah voilà, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il est en général très endurant aussi dans les épreuves. Il sait pouvoir se coucher tard, éventuellement se lever tôt le lendemain matin. Il fait du sport souvent, de manière intense. Il essaye toujours d'aller au bout de ses limites. Mais bien évidemment, fondamentalement, comme vous l'avez dit dans votre question, il a du mal à trouver un lieu dans ce monde-là où exister. C'est-à-dire où être en dehors de ce que le monde lui renvoie, et surtout en dehors de l'enfance.
C'est l'âge où il fait donc des expériences, où il va se tester en sport, sûrement peut-être en musique. Il va se projeter également dans l'avenir. Mais souvent, l'adulte qui se souvient de son état d'adolescent, il y a un fossé entre les deux. C'est-à-dire que ce sont des expériences parfois sans lendemain. Que fait l'adolescent ?
Oui, sans lendemain, dans quel sens vous...
Dans l'engagement également politique, oui. Par exemple, dans le sport aussi, dans les pratiques artistiques. Les ados, combien montent des groupes de rock en disant « je veux être une rockstar » et puis 20 ans plus tard, eh ben, ils sont comptables.
Oui.
Très beau métier.
Oui. Alors là c'est l'occasion de peut-être reparler de la question de l'idéal au fond, hein, pour l'adolescent ou l'idéalité. Par rapport à votre exemple concret, hein, c'est-à-dire du groupe de rock, au fond on voit bien qu'il y a une double dimension. Il y a une dimension intérieure où à ce moment-là la musique est un moyen d'expression, elle a besoin de se déployer avec une très grande puissance, et une dimension extérieure, c'est-à-dire je serais aussi connu que les Rolling Stones ou n'importe quel groupe de rap ou d'autres choses. Et que probablement l'enjeu ici, il est moins dans cette extériorité qui après va peut-être en effet se diluer, et puis peut-être on pourrait dire être castré par la réalité, bien évidemment, mais aussi parce que l'adolescent va intérioriser cette pulsion-là et en faire quelque chose qui lui parle. Hein. Donc, Bien évidemment, il y a des adultes ensuite qui vont regretter une grande partie de leur idéal d'adolescent. Mais il y en a quand même, heureusement, il me semble, en particulier chez les adultes qui sont quand même à peu près heureux de vivre, c'est le plus souvent qu'ils ont lâché quelque chose, qu'ils ont fait des choix, que bien évidemment il a fallu s'orienter vers telle ou telle piste de vie, piste professionnelle, mais aussi piste d'existence, et qu'on a fait des choix. Donc dans cette intériorisation, il y a certes quelque chose qui ressemble à un abandon, mais qui n'est pas que simplement de l'ordre de la perte. Hein.
Est-ce que c'est pas le mot-clé entre qui fait la différence entre l'adolescent et l'adulte, le mot « choix » Je reprends une phrase d'Émile Cioran qui explique dans « Aveu et anathème » Quand j'étais adolescent, j'avais l'impression de tout comprendre, de tout saisir. Et plus je vieillis, et ben, je me rends compte aujourd'hui que je ne comprends rien à rien et que la vie est encore plus mystérieuse aujourd'hui que lorsque j'étais adolescent. C'est-à-dire cette boulimie, cette énergie ouvre les horizons incalculables.
Oui. Bon, Suran, dans l'exemple, hein, c'est quand même pas le parangon de l'optimisme, hein, Suran. Hein, c'est quand même plutôt... voilà. Donc on peut comprendre que peut-être pour lui, dans cette espèce de pessimisme de fond, de côté très morbide chez lui, il y ait peut-être quelque chose autour du deuil qu'il n'ait pas pu faire. Or, le deuil, je vous le rappelle, ça n'est pas lâché. C'est d'abord et avant tout intériorisé. C'est-à-dire, par exemple, pour l'adolescent, il y avait une pulsion à changer le monde et je vais essayer d'en faire quelque chose. C'est-à-dire, peut-être pas obligatoirement me transformer en Che Guevara ou je sais pas trop quoi, ou telle autre figure charismatique ou christique, hein, on va dire, pour notre compte tenu de la radio où nous sommes. Mais on va pouvoir intérioriser ça pour en faire quelque chose peut-être de plus en rapport avec une réalité possible, parce que le monde impose beaucoup de contraintes, bien évidemment, à l'adolescent, mais sans en perdre quelque chose. Donc peut-être, Suran, lui, il n'a pas pu faire le deuil de cette idéalité.
Il reste néanmoins que l'éventail des possibles, il est là à l'âge de l'adolescence, oui. Et qui se réduit nécessairement par le choix, justement, en
oui,
devenant adulte.
Oui, mais j'aurais envie d'abord et avant tout de ne pas trop déployer cette question de la restriction qui arrive à la fin de l'adolescence, peut-être, on pourrait dire, oui. Et qui marque probablement d'ailleurs oui. La fin de l'adolescence, mais par cette pulsion-là. C'est-à-dire, l'adolescent, il a l'irrésistible besoin de croire. De croire en la vie, de croire en un avenir. Et d'ailleurs, il a d'abord et avant tout besoin de croire en lui et en l'autre. Et c'est vrai que le mot croire, se dit en latin credo, hein, ça vient du sanskrit qui veut dire confiance. Donc croire, c'est croire en soi, croire en l'autre, c'est-à-dire croire en une divinité extérieure, croire en la vie et croire en ses potentialités. Donc je crois que l'adolescence, c'est la grande période d'épreuve, de mise à l'épreuve du croire. Il n'y a pas d'adolescence sans nécessité, il me semble, de se croire. L'adolescent, il est un chercheur de vérité, il est un croyant ou un chercheur de croyance et dans une foi en la vie, dans une adhésion à la vie qui soit différente de celle des adultes, qui soit la sienne. Je crois que ça, c'est tout à fait essentiel. Il a à se différencier par rapport à ce dont il a hérité sans choix personnel. Et la foi dans la vie, c'est une nécessité, c'est une totalité, c'est un impératif, c'est une exigence, je dirais presque... Pour reprendre ce que vous aviez dit, totalisante dans la vie, c'est-à-dire il faut que tout soit dans cette expérience-là, même lorsque cela déploie, ça se déploie dans les marges et que ça peut devenir non pas totalisante, mais éventuellement totalitaire.
Encore un nouveau cheval de bataille.
J'ai une idée, chaumons dès aujourd'hui.
Pas mal.
Mieux chaumer demain.
Ouais.
Vas-y, on met ça, c'est
très fort.
Ça résume et tout.
Chaumons dès aujourd'hui,
c'est pour mieux chaumer demain.
Vous aimiez pas, vous, tous en grève contre le chômage ?
Non, c'était. Avec
ça, c'est un peu mieux.
Groupe anarchie dure. Pourquoi j'ai AG ?
Parce que transatlantique, monsieur.
Gag.
Évidemment.
Bien sûr.
Thank you.
Retour au Père et les jeunes de Cédric Clapiche pour illustrer cette idéalité, ce besoin d'engagement, cette croyance fondamentale qui habite l'adolescent. Engagement parfois maladroit et qui, avec le recul, peut parfois faire sourire et pourtant qui est fondamental. Docteur Desmichel, dans les années 70-68, il y avait l'engagement politique. On a l'impression que c'est l'âge d'or de l'adolescence. Et même aujourd'hui, moi qui étais ado dans la fin des années 90, je regarde les années 68-70 comme un âge d'or pour l'adolescence. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils avaient de la chance, les ados, à cette époque-là. Ils avaient un engagement politique plus ou moins clair. Ils sont descendus dans la rue, ils ont balancé des pavés. C'est magnifique pour un adolescent.
Oui, oui, parce que l'adolescent, il est avant tout un passionné. Hein. Vous savez, la raison et la passion, ça s'oppose. Hein. Bien évidemment, c'est le grand conflit entre Descartes et puis Pascal. Hein. Pascal qui dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et justement, l'adolescent, il est ce passionné. Alors, dans cette passion, hein, cette passion dont il faut rappeler l'étymologie, hein, passion, ça vient de pathos, c'est-à-dire souffrance. Et on peut l'entendre à la fois comme la passion naît à partir de la souffrance, mais la passion est aussi une souffrance. Hein. Le mot passion en France, en français, a perdu son sens. Hein. Maintenant, c'est la passion pour le football. Et compte tenu de la radio où nous sommes, on peut se rappeler que le seul lieu où on utilise ce mot dans son étymologie la plus pure, c'est la semaine de la passion du Christ. Mais si on remplace par la semaine passionnante du Christ, on dit la même chose, mais sauf qu'on dit exactement le contraire. Hein. Voilà. Mais c'est le même mot. Donc l'adolescent, c'est un passionné. De l'enthousiasme le plus extraordinaire, le plus généreux, le plus altruiste, jusqu'au nihilisme, au fond, le plus noir. Et on voit bien combien l'adolescent est toujours entre boulimie de tout et anorexie, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire, par exemple, être, comme chez l'anorexique, totalement dans la pensée.
Mais on sent aussi qu'il est comme une plante qui a besoin d'un substrat de la société pour lui fournir le moyen d'exploser, enfin le moyen d'être créatif et puis le moyen de bouger.
Oui.
On a tendance à dire que l'ado d'aujourd'hui, ou même l'ado de mon époque, de la fin des années 90, est beaucoup plus apathique, sans engagement politique en tout cas. Ça, c'est une réalité. Il est peut-être beaucoup plus raisonnable également. Moi, je suis super étonné quand je vois des ambassadeurs de l'UNICEF qui viennent parfois faire des émissions ici, capables d'organiser une manifestation qui va regrouper des centaines de personnes. Ils sont au lycée, mais j'aurais été incapable de faire ça à leur époque. L'ado change par rapport à la société. Ça, c'est obligatoire. Et par contre, ce besoin d'idéalité, il est toujours le même. Ça, c'est une constante.
Je crois que l'ado, il a besoin d'être un héros, hein, fondamentalement un héros vaillant qui ne lâche pas et qui, au fond, est prêt à mourir pour son idéal ou son idéalité. En même temps, c'est bien important de se dire que cette quête, qui est une quête d'être, hein, d'être une quête narcissique, au fond, hein, c'est-à-dire qui suis-je, elle est toujours périlleuse. Hein. Et on voit bien, vous l'avez évoqué au moment des années 70, par exemple, on le voit maintenant en apprenant qu'il y a certains adolescents, souvent la deuxième moitié de l'adolescence, 20-25 ans, qui de temps en temps ont des choix politiques, ont des engagements qui nous paraissent à nous, peut-être adultes, tout à fait terrifiants. Donc je crois que dans la passion, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit politique, on voit que l'adolescent, il est prêt à tous les extrêmes, pour le meilleur et pour le pire. Il est prêt à toutes les outrances dans le lien à l'autre, dans le lien à lui, par exemple des sports extrêmes, par exemple, dans le lien à l'alimentation, hein, c'est-à-dire voilà combien il y a de l'adolescent obèse qui ingurgite et qui se remplissent, mais combien il y a d'adolescentes anorexiques aussi qui n'ont qu'une seule idée, c'est de supprimer leur corps et être que dans leur pensée. Donc cette idéalité, elle s'enracine dans un espace pulsionnel, mais qui renvoie à cette exigence d'être et cette exigence qui est extrêmement profonde.
Ça peut aller extrêmement loin. On voit aujourd'hui certains jeunes français qui vont partir en Syrie faire le djihad. Ça paraît incroyable. Il y a quelques années, ça nous aurait paru incroyable, ça.
Oui, oui. Oui, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas trop parce que qu'est-ce qui est proposé actuellement aux adolescents ? Le religieux, ça fait quand même pas bander énormément les adolescents. Hein. La politique, n'en parlons pas, hein, souvent c'est plutôt du style quand même plus que tragique que ça, tu meurs, et peut-être on meurt déjà tous. Donc, il leur reste quoi ? Un seul impératif, tu dois jouir de la vie, et puis c'est tout. Alors, jouir de la vie, actuellement, on sait bien que ça se résume souvent à la consommation. Et comme l'adolescence est ce temps de l'idéalité, voire l'épreuve de l'idéalité, c'est en même temps une espèce de maladie de l'idéalité. C'est-à-dire à partir du moment où le collectif ne propose plus une idéalité, où il n'y a plus rien à quoi se référer, quitte à en prendre et à en laisser, quitte à critiquer, quitte à être contre. Mais si ça nous donne une identité, ça a de la valeur. Alors, où est-ce qu'on va ? Et je pense que cette altérité, cet autre idéal, qu'il soit un autre en tant que personne, on a quand même perdu les grandes figures, qu'elles soient littéraires ou politiques, il y en a quand même plus énormément actuellement, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes. Donc,
si on regarde le top 50 des Français préférés, je crois que Zidane, il arrive en tête. Alors, ouais, on est loin de...
Oui, encore que lui, peut-être, il peut incarner déjà quelque chose. Mais on sent bien qu'il y a une certaine forme de limite. De limite. Donc, je crois que cette passion-là, qui anime l'inconscient d'adolescent, qui le rend, au fond... une sorte, je dirais, presque de mystique de l'idéalité, hein, c'est-à-dire cette idéalité ou cet idéal qui vient l'animer, elle est au fond mystique, c'est-à-dire elle est très mystérieuse pour lui, hein, l'étymologie de mystique, c'est le mystère, ça le possède, et l'objet qui lui est proposé, l'idéal ou l'idéalité qui lui est proposé, n'est pas à la hauteur, si ça le déçoit, alors il doit mourir. Et c'est vrai que probablement une des raisons qui explique une partie de la violence et de l'agressivité des adolescents actuels, c'est ce manque d'idéalité. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'est pas prêt à se battre pour quelque chose, il faut tenter de projeter ce nihilisme qu'on sent à l'intérieur de soi sur les autres. Voilà, et donc c'est une sorte de survie. Je ne justifie pas, bien évidemment, cette violence projetée, mais il me semble qu'on peut trouver là une des explications. Il n'y a que du vide, la société ne me propose plus rien du tout, donc je vais attaquer la société. Que ce soit la société en général, mais aussi l'entourage, hein, le vandalisme, voilà. Et que ce soit aussi lui-même. Hein. L'adolescence, c'est aussi le moment de l'auto-agressivité, hein, les autodestructions, le fait que l'adolescent va se blesser, ou entre guillemets un peu accidentellement parce que il a des conduites à risque, ou parce qu'il prend un couteau et qu'il se cisaille le poignet, ou j'ai évoqué l'adolescente qui est anorexique. Donc s'il arrive à contenir et à refouler les images qui jaillissent, s'il arrive à contenir ses affects, deux possibilités. Ou il refoule complètement et il risque de déprimer, ou il les projette sur la société et il risque d'être violent et agressif.
Alors n'importe quel sportif nous le dira, la vertu du sport, c'est l'échec. C'est-à-dire qu'on apprend avec nos échecs à rebondir et aller plus loin. Cet ado confronté au monde actuel, comment gère-t-il ses échecs ? Là, je parle au psychanalyste. Comment on peut l'aider à gérer ses échecs et à aller plus loin ? Est-ce que c'est naturel ? Est-ce que ça se fait naturellement ? J'espère pour la plupart des cas, mais...
Eh bien, je ne sais pas si je dirais gestion des échecs. Je dirais au fond que, d'abord, dans l'exemple du sport, il y a deux choses. Il y a la compétition et l'émulation. Ce n'est pas la même chose. Hein. La compétition, c'est par rapport aux autres. De temps en temps, pour un adolescent, il a besoin de savoir qu'il a un zizi plus gros que les autres, quand même. C'est important. Ou en tout cas, que le sien fonctionne bien. À entendre, bien évidemment, dans une dimension symbolique. Pour une femme ou une adolescente, je suis là dans les clichés, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, elle a besoin de savoir qu'elle peut être désirée. Hein. Mon propos, c'est pas de résumer le fait que les garçons désirent et que les femmes sont désirées, hein. c'est plus compliqué que ça. Je pense même qu'à un niveau inconscient, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc je pense que par rapport à cette compétition et cette émulation, l'enjeu, c'est le deuil. Et le deuil, ça n'est pas la perte, ça n'est pas l'échec, c'est l'intériorisation. C'est-à-dire, ce qui est important à l'adolescent, c'est de pouvoir lui dire, à partir de cette limite que tu éprouves par rapport à ce que toi tu vis comme un échec, tu vas grandir à partir, non pas de ton échec, parce qu'en gros les échecs ça sert à rien, mais ça, tu vas grandir à partir de ce que tu vas faire de ton échec. C'est-à-dire, ouais, si tu arrives à intérioriser que là tu peux dépasser et que fond ton identité ne se résume pas à ton succès, mais que ça s'enracine dans ce que tu es profondément, alors il y a la possibilité d'en faire quelque chose. Donc ce travail d'intériorisation est tout à fait important. Et on le voit particulièrement du côté de l'amour, parce que l'adolescence, c'est quand même bien le moment des grands échecs. Alors là, je vais reprendre ça, échec amoureux. Oui. L'adolescent, il pense, si je n'ai pas cet objet, je n'ai rien. Si je n'ai pas tout, je ne suis rien. Si je n'y arrive pas, je ne vaux rien, autant mourir. Donc ça, c'est l'extrémisme de l'idéalité, c'est la pulsion de l'idéalité qui lui fait dire ça. Pour le meilleur, avec l'enthousiasme créatif qu'on a déjà évoqué, mais aussi pour le pire, comme on l'a déjà aussi évoqué, du côté d'une espèce de temps en temps, ce qui peut ressembler à une stratégie de l'échec ou une espèce d'auto-agressivité ou d'hétéro-agressivité difficile. Donc je crois qu'il y a lieu de travailler avec les adolescents cet idéal. Cet idéal, c'est une croyance. Et c'est quoi la croyance ? C'est tout le contraire de ce qui est certain. Donc on ne croit que en l'incroyable, au fond. À partir du moment, on va dire par exemple, compte tenu de cette radio, on pourrait dire l'idée que le Christ est ressuscité, il faut que ça soit incroyable. Si c'est possible, on va aller vérifier, on va regarder, est-ce que c'est sérieux ou, bon. Mais voilà, ou on va y adhérer en fonction de critères scientifiques, rigoureux ou objectifs, en tout cas. Ou à partir du moment où c'est incroyable, on va pouvoir y croire. Donc l'adolescent, il a besoin de croire, et il a besoin de croire, par exemple, ou l'adolescente, que son copain ou sa copine l'aime, et que cette croyance, il y met son identité, pas à partir des éléments objectifs, mais à partir de ce qui tisse de la relation. Donc, cet idéal nourrit la croyance, porte la vie, et en même temps porte la mort. Et que ce qui accomplit cette pulsion de vie et cette pulsion de mort, c'est le travail du deuil. C'est-à-dire de pouvoir lâcher ce qui ne peut pas être tenu, parce que l'adolescent, il a envie de changer complètement le monde, et que des adolescents qui ont changé le monde, il y en a quelques-uns sur la planète depuis que l'histoire existe, mais il n'y en a quand même pas tellement. Et tous les autres, ils ont pu intérioriser, et on peut leur souhaiter en tout cas d'avoir gardé cet idéal, et que cet idéal donnent sens à leur existence tout au long de leur vie.
Des mots pour le dire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'on se retrouve dans 15 jours pour poursuivre le docteur Desmichel et moi-même notre réflexion sur le monde de l'adolescence.